Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'immigration peut-elle enfin faire l'objet d'une approche fondée sur des réalités et non plus sur des préjugés et des ressentis? C'est la question qui étreint depuis longtemps François Héran, récemment nommé président du conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration. Alors que ces questions sont aujourd'hui abordées sous l'angle de la crainte d'un séparatisme islamiste par le président de la République en déplacement à Mulhouse, nous nous intéresserons au rôle des chercheurs mais aussi des artistes dans l'élaboration d'un discours, d'une histoire. Histoire commune, François Héran sera notre invité à 12h55 après le journal. Mais avant cela, direction Bogota. Alors que le cinéma colombien explose ces dernières années, on voit émerger une jeune génération de cinéastes prêtes à se raconter et à raconter un pays qui ne se connaît encore pas très bien. Là aussi, loin des clichés, Franco Loli appartient à cette génération. Son film Une mère incroyable sort demain en France. Il est l'invité de la grande table à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Yo sé que su mamá ha estado enferma. Yo sé lo de su niñito.
Obviamente le está pasando algo.
Dicen que no tengo papá.
Y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos.
Vivir. O morirme. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte.
Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo.
Entonces no hay novio, novia, novia.
Tengo un hijo.
¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá?
No hay papá de Antonio.
A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese.
No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asusten, nosotros no hemos hecho nada de mal.
Que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina.
No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble.
Une mère incroyable, c'est votre second long métrage, Franco Loli, en salle demain. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il avait été présenté en ouverture de la semaine de la critique lors du Festival de Cannes l'année dernière, en 2019, comme l'avait d'ailleurs été avant lui Gente de Bien, votre premier film. C'était en 2014, ce nouveau film se déroule en Colombie, votre pays natal, mais vous parlez parfaitement français, puisque vous avez fait vos études en partie ici en France, vos études de cinéma à Montpellier, à la Sorbonne, puis à la Fémis. Une mère incroyable, c'est le portrait d'une femme, ou plutôt de plusieurs femmes, d'une famille de femmes, Laetitia, la mère, atteinte d'un cancer. Et ses deux filles, Sylvia, qui est juriste, dont la vie privée est un petit peu compliquée et qui est aussi mise en cause dans une affaire de corruption, et Maria José, plus douce, plus effacée, mais qui tient tout de même à bout de bras cette famille qui parfois se déchire, s'affronte. Litigante en espagnol, ça veut dire l'avocate, la plaidante en français. Donc vous avez choisi comme titre, peut-être n'est-ce pas vous, mais vous allez nous le dire, une mère incroyable. Vous doutez de cette question, évidemment, sur la différence, c'est-à-dire le choix de mettre l'accent sur la profession d'avocate et sa fonction, sa capacité à discuter, à argumenter de votre personnage principal Sylvia, mais aussi de Laetitia, sa mère, et le passage à la mère, à la maternité. Pourquoi cette translation ?
C'est un choix du distributeur français qui voulait centrer le film plus sur peut-être le sujet le plus important, qui est donc la filiation, la maternité, la relation à la mère. Là où en Colombie, moi j'avais choisi de le centrer plus sur le côté combatif des personnages, sur la façon, comme vous dites, d'argumenter, de se battre, d'avoir toujours la tête haute. Du coup, c'était un titre un peu plus métaphorique, Litigante, mais qui racontait aussi le milieu dans lequel se passe le film, parce que c'est un milieu d'avocat et de juriste. Et puis moi j'aime bien, parce que c'est comme les deux faces d'une même pièce, je dirais, c'est... Les deux titres me conviennent complètement et en fait, je trouve qu'ils se complètent.
Ce milieu d'avocat, de juriste, un milieu plutôt bourgeois, en effet, en Colombie, il y a une dimension autobiographique qui va très loin dans ce film, puisque votre mère y joue le rôle de Laetitia, la mère de Sylvia, qui elle-même, on aura l'occasion de parler de l'actrice qui joue Sylvia, Carolina Sanin, qui est une féministe, écrivaine importante en Colombie, mais qui se trouve aussi être une de vos cousines, enfin un peu éloignée d'après ce que j'ai cru comprendre, mais malgré tout c'est la famille aussi, mais sur cette dimension autobiographique. L'origine du film, c'est l'annonce du cancer de votre mère. C'est comme ça que ça commence ?
Pas tout à fait. J'avais commencé à écrire une histoire sur un personnage féminin. Ça m'intéressait de raconter l'histoire d'une femme. parce que j'ai été élevé par des femmes, parce que mon film précédent était centré sur des hommes et je commençais à en avoir un peu marre, je crois, de raconter des hommes. Et j'avais déjà comme projet de faire un portrait de femme sur plein de côtés différents de sa vie. Et à ce moment-là, ma mère tombe malade d'un cancer et ça me choque, ça me met dans une situation, je dois l'accompagner dans ses traitements, dont j'ai peur qu'elle meure. Et en fait, je vois aussi que ça me donne une énergie incroyable, justement. Bizarrement, le fait d'avoir été confronté à la possibilité de sa mort me ramène, moi, à une envie de vie très, très grande. Et j'ai envie de raconter cet élan dans le film, à la fois donc, la maladie, évidemment, et comment on doit s'occuper de quelqu'un qu'on aime tellement et qu'on a peur de perdre, mais aussi comment quelque chose comme ça peut nous donner un élan de vie qu'on n'a pas au quotidien, parce qu'on est parfois aliéné, endormi.
Oui, c'est pas un film sur le cancer, sur la maladie, mais bien un film sur la vie qui vient avec, en quelque sorte.
Je pense que c'est un portrait d'une femme. C'est un portrait d'une femme sur beaucoup de, il y a beaucoup d'aspects. Il y a le côté professionnel, le côté familial, le côté amoureux. En effet, il est très centré sur la relation à sa mère et il se trouve que sa mère est malade. Mais moi, je pense que c'est pas du tout un film sur la maladie. C'est un film sur comment une maladie, un événement déclencheur, peut nous faire comprendre des choses sur notre propre vie. C'est vraiment un portrait et un éveil.
On va revenir sur ces sujets-là, Franco Loli, mais je voulais avoir un mot de votre part sur le choix du casting, puisque ce casting, donc je viens de le dire, il y a votre mère, il y a une écrivaine qui n'est pas actrice professionnelle. J'ai lu dans le dossier de presse que 95%, voire plus, puisqu'il n'y a finalement qu'un seul acteur professionnel qui est le rôle joué par Abel, par Vladimir Duran.
Et encore, il est aussi réalisateur dans la vie, donc...
Oui, mais c'est acteur, réalisateur, disons qu'en tout cas, c'est quelqu'un de la profession, contrairement aux autres acteurs. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous tenez en passer par ces castings, j'imagine, très très longs, et en passer aussi par ce recours à des acteurs non professionnels en Colombie?
Ouais, moi, j'aime bien les acteurs professionnels aussi, mais il se trouve qu'à chaque fois, je prends plus d'acteurs non professionnels. Donc, sans doute, il y a quelque chose qui m'attire plus, parce que c'est peut-être des nouveaux visages, des nouvelles voix, des personnalités qui viennent avec. Donc, dans le cas de Carolina Sanin, qui est l'actrice principale, bah, comme vous le dites, c'est une écrivaine, c'est une féministe, c'est quelqu'un d'assez connu en Colombie, très polémique. Et en fait, c'est une femme très, très, très forte. Et en fait, j'en connais pas beaucoup des actrices comme ça dans mon pays. En tout cas, j'en ai pas trouvé pour ce rôle-là. Dans le cas de ma mère, qui est évidemment le choix de casting le plus fou du film, mais je pense le pari le plus gagnant aussi. Bah, c'est juste, je connais personne d'autre comme ma mère. Et elle est vraiment incroyable. Pour les gens qui ont vu le film, elle a une personnalité de ouf. Elle a une énergie, elle a une voix. C'est une actrice formidable.
Elle était avocate, mais elle voulait être actrice.
Tout à fait. En fait, sa famille, en Colombie, je ne sais pas si c'était pareil en France, mais je crois moins. Mais à l'époque où ma mère était jeune, dans les années 60, il était très mal vu de devenir actrice. Et ses parents...
Je ne suis pas sûr que ça ait été si différent que ça en France.
Peut-être
que
c'était pareil.
Ouais.
Et du coup, ses parents, mes grands-parents donc, lui ont dit, bah, écoute, tu ne vas pas être actrice, tu vas faire un autre boulot, un boulot normal. Et elle a été avocate, donc, comme son père. Ça a été une très bonne avocate, elle a très bien réussi sa carrière. Mais elle a toujours voulu s'exprimer autrement, artistiquement. Et moi, il y a quelques années, en 2012, j'ai fait un court-métrage autour de la vie de mon oncle. Et j'ai fait jouer mon oncle et puis ma mère. Et là, j'ai vu que, bah déjà, que j'avais très, très envie de la filmer. Et puis que c'était une actrice géniale.
C'est un pari gagnant aussi parce que, peut-être, comme le disait un réalisateur qui compte pour vous, Maurice Pialat, la question de la présence est au moins aussi importante que la question de la technique quand on sait de savoir jouer la comédie.
Le goût que j'ai d'un certain jeu, je dis bien d'un jeu, hein. C'est un goût, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de jouer. Je l'ai pensé longtemps, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas forcément la meilleure façon de jouer, mais moi je continue à aimer celle-là et la rechercher. C'est vrai qu'elle, ça va dans le sens du plus grand naturel possible. En fait, ce naturel, il est pas vraiment... Il peut être pendant, je crois, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je pense pas qu'il puisse être continu sur une scène, et qu'il y a toujours conscience chez tout le monde du jeu, de l'enregistrement, et que donc c'est, disons, une façon de jouer sobre, enfin, qui s'efforce d'être sobre qui paraît très proche du naturel, mais je ne sais pas s'il est tant que ça. Je crois que les comédiens vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je vais dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas nouveau de savoir qu'au cinéma en particulier, la présence, ça compte énormément, et qu'il y a des gens qui jouent comme ci, comme ça, et qui sont très bien.
Je pense, Franco Loli, qu'il n'y a pas un mot de ce que vient de dire Piala que vous ne pourriez reprendre à votre compte.
Absolument, non, mais il me fait rire en plus parce que lui, c'était un grand acteur. Mais c'était un grand acteur parce que c'était un type génial, avec une présence très très forte, avec une voix superbe. Et en fait, à la fin, un acteur, c'est souvent un visage, une voix, et une énergie, et puis une intelligence. Et le reste, c'est juste jouer. Et jouer, à peu près, n'importe qui peut le faire.
Un mot tout de même de Piala, de l'importance du cinéma français dans votre parcours, puisque je le disais en introduction, vous avez fait vos études de cinéma ici en France, à l'université, puis à la FEMIS, la prestigieuse FEMIS. Quel rôle a joué le cinéma français dans votre formation? Est-ce que vous êtes cinéphile d'abord, Franco Loli?
Je le suis. Je vois un peu moins de films maintenant, parce que je viens d'avoir un enfant il y a 14 mois, donc ça complique un peu les sorties ciné, mais je suis cinéphile et le cinéma français... Moi, je dirais qu'il a peu compté pour moi et énormément à la fois. Parce qu'il n'y a que quelques cinéastes français qui m'intéressent vraiment, et dont Maurice Piala.
Pourquoi Piala?
Parce qu'il est à la recherche d'une vérité. Parce qu'il cherche à rendre toujours les gens dignes et beaux, même dans des situations difficiles. Parce qu'il a trouvé des comédiens, des comédiennes, en l'occurrence, Sandrine Bonner, dans Nos Amours. Cette découverte est merveilleuse. Et parce que c'est un type dont je crois que je partage les valeurs. Et en fait, ces valeurs-là sont assez rares de nos jours. On a l'impression que c'est pas très important tout ça. Les questions d'honneur, de dignité, de comment on est respecté ou pas. Est-ce qu'on respecte les gens ou pas? Et pour moi, ça, au fond, ça se voit dans son cinéma. Et ça le rend touchant, c'est vivant. Puis là, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vivant.
Parler aussi de c'est vivant aussi par sa façon de tourner. Vous vous référez beaucoup à sa façon de tourner comme étant un peu la vôtre, une façon peut-être un peu chaotique.
Oui, mais je pense que c'est parce que par le chaos arrive l'accident, et l'accident est souvent si on la convoque, on peut faire advenir la grâce à travers l'accident. Et je pense que lui était à la recherche de ça tout le temps. C'est ce qu'il dit. Il cherche le naturel. Ça peut durer 2-3 secondes. Mais si on les chope, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, c'est parce que l'amour est là tout le temps. Non? Il avait fait un court-métrage d'ailleurs qui s'appelait L'amour existe. Et en fait, quand l'amour existe, on a plus envie de vivre. Et je pense que le cinéma de Piala, il nous raconte tout le temps ça. Et moi, j'espère que le mien nous raconte la même chose.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
La Grande Table avec Franco Loli, réalisateur colombien du film Une mère incroyable qui sort demain en France. Franco Loli, on le disait, il y a un personnage central, c'est celui de Sylvia, rappelons-le, avocate, qui est accusée, ou en tout cas qui est prise dans une accusation de corruption. On sent bien qu'elle n'y est pas pour grand-chose, mais qu'elle est l'avocate d'un groupe qui travaille dans le bâtiment public, enfin dans la construction publique, et qui est prise dans cette situation. Elle est incarnée par Carolina Sanin, vous l'avez dit, écrivaine très marquée, féministe. Il y a ces dernières années en Amérique latine un mouvement féministe très important. On pense évidemment à ce qui se passe au Chili avec ces femmes chantant El violador eres tú, le violeur, c'est toi, en Argentine.
Pas moi, hein.
Non, je sais, non, c'est ce que chantent ces femmes. L'Argentine où les femmes ont beaucoup milité pour le droit à l'avortement. Quelle est la situation en Colombie aujourd'hui?
Oh, en Colombie, on est un peu comme partout, moi je dirais. Ça avance à petits pas, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Là, l'avortement est remis en question tout le temps. D'ailleurs, il n'est pas légal. Il est juste légal dans 3 cas en Colombie. C'est en cas de malformation, en cas de viol, et un troisième que j'oublie. Mais en tout cas, on veut même revenir sur ça. Non, le pays, on n'y est pas. Mais on n'y est pas non plus ici en France. Donc.
Il y a du chemin encore, je vous le confirme. Je ne sais pas si on est les mieux placés pour en parler, mais en tout cas, c'est le cas, Franco Loli. Un film sur des femmes, donc des femmes puissantes. Les hommes viennent à la marge. Le père de l'enfant de Sylvia est un père absent. On ne sait pas très bien si c'est un choix. Enfin, on voit que c'est un choix de sa part, mais
c'est un choix.
Sans qu'on sache véritablement comment il a été pris.
C'est surtout un choix à elle, à Sylvia. C'est elle qui a choisi de faire un enfant toute seule. Mais cet enfant a un progéniteur. Il y en a toujours un des progéniteurs. Et du coup, mais c'est un choix.
Il y a un amant, Abel, joué par, je le disais tout à l'heure, Vladimir Duran, qui est vraiment un acteur très très impressionnant. Vous l'avez dit aussi, réalisateur. Et c'est l'homme, je dirais, principal du film. Il est à la marge et c'est étonnant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est lui qui apporte à peu près la seule touche de romantisme du film.
Tout à fait. Ça va même du côté de la comédie romantique. À des moments, le film est pas du tout dans cette esthétique-là.
C'est dans la scène où ils discutent derrière le portail, chacun sous la pluie. C'est vrai que ça fait très comédie romantique.
Mais moi, je regarde beaucoup de comédies romantiques, j'adore ça. Je trouve qu'il y en a des très très bonnes et qu'on confond souvent les bonnes et les mauvaises comme si c'était, on les met dans un même sac et il ne faut pas. Le cinéma, il peut être bon à Hollywood comme il peut être bon au fin fond de la Chine, dans des cinémas très, très auteuristes, on va dire. Et moi, je pense qu'il fallait dans ce film qu'il y ait un bol d'air. Parce qu'il y a beaucoup de sujets durs, il y a beaucoup de situations compliquées pour le personnage principal. Et elle, justement, elle va chercher de l'air, de l'amour, de la légèreté chez Abel, donc interprétée par Vladimir. Donc c'est un peu ça, c'est son chemin. Elle tombe amoureuse. Quand on tombe amoureux... voilà, c'est ça qui se passe.
Beaucoup de tensions aussi dans les scènes de dispute. On en a parlé, litigante. Donc c'est
il y a beaucoup de
scènes de dispute, des scènes de dispute froides, des scènes de dispute beaucoup plus violentes où le ton monte. Pourquoi cette passion, Franco Lolli, pour filmer ces scènes de dispute? Qu'est-ce que vous y cherchez?
Je ne sais pas. Je dois vous avouer que je ne sais pas. Ça vient et je pense que ça vient parce que dans ma vie, je suis quelqu'un qui se dispute beaucoup avec les gens. Qui vient d'une famille qui se dispute beaucoup, mais qui s'aime énormément. Moi, j'ai l'impression que... Parce que je réfléchis beaucoup à pourquoi ces gens se gueulent dessus toute la journée. Un peu comme dans les films de Cassavetes ou de Piala ou de... Et en fait, j'ai le sentiment qu'ils essayent de communiquer sans y arriver. Mais ils essayent de s'approcher de l'autre. Et c'est une façon évidemment maladroite, mais ça reste une façon d'exprimer de l'amour, une tentative de s'approcher de l'autre. Et en fait, on s'engueule jamais avec les gens qu'on n'aime pas. On s'engueule toujours avec sa famille, avec sa femme... avec ses meilleurs amis, mais on ne s'engueule pas avec des inconnus.
Et puis surtout, il y a les paroles et il y a les gestes qui sont aussi très importants que vous filmez. On peut enchaîner une scène d'engueulade, justement, très très vive, et ensuite des scènes extrêmement touchantes de la mère qui se fait raser la tête ou qu'on retrouve, qui est tombée la nuit et qui est ramassée par sa fille alors qu'elle vient juste, enfin, en tout cas, dans le montage.
Tout à fait. C'est que dans la vie, je ne pense pas que... c'est pas parce qu'on s'engueule avec quelqu'un qu'on s'engueule à vie. Justement, les gens qu'on aime, ils nous permettent de pouvoir rentrer dans des disputes avec eux. Et juste après, s'il y a quelque chose d'important, en fait, ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. C'est à ça qu'on reconnaît les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et pour moi, c'est très important de raconter ça. C'est qu'aucune engueulade est plus forte que l'amour. L'amour passe au-dessus de tout. Mais je reviens toujours à cette idée de l'amour parce que je crois que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui est un peu perdu. Dans la représentation, dans le cinéma, dans la télévision, on ne va pas chercher à regarder les gens ni avec amour, ni à regarder des gens qui s'aiment entre eux de façon réelle, véritable, je ne sais pas comment le dire.
Au risque du cliché, Franco Lolli, quand on pense à l'Amérique latine et qu'on pense à la télévision, on pense aux telenovelas, ouais. Et l'amour est le sujet central.
Il est là tout le temps, mais il est toujours faux. Et en fait, moi j'essaie justement de raconter... d'une certaine façon, les mêmes choses qu'on voit dans les telenovelas, parce que si on regarde les histoires des telenovelas, elles sont formidables. Ce qui ne va pas, c'est la façon dont elles sont racontées. Et en fait, moi, j'essaie de raconter des choses qui ne sont pas si loin d'une telenovela, mais qui, en fait, sont racontées, comme je vous disais, avec une autre dignité dans la représentation.
Et qui sont aussi racontées d'une façon que je qualifierais de non-exotique. Je m'explique, c'est vrai que quand on a un regard français, alors évidemment là ça concerne plutôt le public français, j'imagine, sur votre...
Étranger, mais...
Oui, enfin étranger, oui, non, je ne peux pas parler pour les autres. Sur votre cinéma Franco Lolli, on s'attend d'un film colombien, que la violence ne soit pas celle des échanges entre une mère et sa fille, mais plutôt des échanges de coups de feu, pour le dire de façon un peu caricatural. On s'attend à ce que les questions de tension sociale, d'inégalité, de pauvreté, le rapport évidemment par exemple aux Indiens, aux Autochtones soient abordés. Or, tout ça, vous le laissez volontairement de côté.
Tout à fait, ou en tout cas en arrière-plan, parce que, en fait, à Bogota, il y a 10 millions de personnes, c'est une énorme ville, et on va dire qu'il n'y a, que peut-être une centaine de milliers qui sont concernés par ces questions de coups de feu ou de rapport aux autochtones, ou de... Et le reste des gens, bah, ils vivent comme vous et moi, on vit à Paris ou n'importe où. Et en fait, je crois que la représentation que nous, en tant que Colombiens, on a donnée au monde de notre pays, parce que c'est nous-mêmes qui avons fait les films sur le trafic de drogue, qui vendant encore l'image de Pablo Escobar, qui, bah, évidemment, ça fait que les gens ont des clichés sur nous. Et il faut juste casser ces clichés. Pour les casser, il faut comprendre qu'en Colombie, bah, on peut vivre comme ailleurs, mais quand même de façon très colombienne. Ça reste un film extrêmement colombien.
C'est ça veut dire quoi, un film extrêmement colombien ?
Bah, c'est un film où les rapports entre la mère et la fille, qui pourraient être des rapports, c'est des rapports similaires à ceux qu'il y a en France, mais ce n'est pas les mêmes. On parle plus fort, on s'engueule plus fort, on se prend beaucoup plus dans les bras. Bah, ça reste la Colombie.
Alors peut-être aussi pour sortir de ce cliché, il y a la possibilité donnée par le cinéma qui, ces dernières années, je le disais, a explosé. On est passé, je crois, d'à peu près 4-5 films par an à une quarantaine dans la décennie 2010-2020, Franco Loli. Et ça permet, en tout cas c'est ce que dit Ciro Guerra, qui est un autre réalisateur colombien, ça permet évidemment d'ouvrir considérablement le champ des possibles.
Je pense que pour moi,
c'est un avantage d'être dans un pays qui a ce type de tradition cinématographique.
Parce
qu'on a encore tout à faire, tout à raconter.
On n'a
pas le poids du passé d'une industrie cinématographique qui pèserait sur nos épaules.
C'est
ce qui se passe, notamment aux États-Unis.
Donde hay que hacer una y otra vez las mismas películas
porque
ya se agotaron
las historias. Uy, faire encore et encore les mêmes films.
Siento que esa posibilidad es lo que me estimula a continuar trabajando.
Y ces possibilités qui s'offrent à nous, c'est ce qui me stimule. Là,
sí, porque realmente Colombia es un país que todavía no se ha contado a sí mismo, ni se conoce a sí mismo.
La Colombie est un pays qui ne se connaît pas, qui ne sait pas raconter encore.
Es un reto llegarle al público, a un público
colombiano.
C'est un
vrai défi pour toucher, le fait de toucher le public colombien.
Es un público aliénado durante mucho tiempo.
Parce que c'est un public qui a été aliéné pendant assez longtemps.
Y pues digamos que que está acostumbrado a la idea de que el cine es un escape.
C'est que c'est un public qui va au cinéma comme une échappatoire.
Y que no ve el cine como una forma
de entender mejor su mundo en el que vive o su realidad. Une manière de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et leur réalité.
Vous êtes d'accord avec Ciro Guerra, Franco Loli, sur cette possibilité infinie ouverte aujourd'hui au cinéma colombien ?
Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, je suis d'accord. Ouais. Non, on est amis. Hein. Mais oui, bah, en fait, on a une chance, c'est d'être dans un pays qui n'a pas été filmé. Et c'est une énorme chance. Moi, je descends chez moi dans la rue. C'est des rues très, très riches en histoire, mais surtout, elles n'ont pas été filmées. Donc, dès qu'on pose une caméra là, c'est la première fois. Et du coup, il y a quelque chose d'extrêmement excitant. À Paris, par exemple, toutes les rues ont été filmées 1000 fois. C'est très difficile de poser une caméra à Paris où quelqu'un ne l'ait pas fait et ne l'ait peut-être pas fait mieux que soi-même. Donc, je suis d'accord avec Ciro. Je pense que nous sommes un pays qui ne se comprend pas encore et qui commence à peine à se voir reflété dans les films. Et c'est très important qu'on fasse des films justement très différents. Ciro, d'ailleurs, fait des films sur des indigènes autochtones, l'étreinte du serpent. Et que moi je fasse mes films qui sont plus urbains et plus sur des relations humaines. C'est essentiel. Ouais.
Qué bonito ese sombrero que tenés ahí colgado. Yo me lo voy a llevar, pa ponerlo de costado. Yo me lo quiero poner, pa pecar aquí lo llevo. Lo pongo aquí en mi cabeza, pegar el sol que veo. Sombrerito, ay mi sombrerito. Ay, mi sombrerito. Ay, mi sombrerito, ay, mi sombrerito. Ay, mi sombrerito, ay, mi sombrerito.
Vae, un groupe franco-colombien qui sera en concert à Nantes, au Panonica. Ce sera le 13 mars. Franco Loli, musique un peu de fusion, vous me faisiez remarquer, hors antenne. Un mot tout de même, puisque vous me parliez des rues de Bogota qui n'ont jamais été filmées, puis je me rends compte qu'on n'a même pas fait honneur à votre chef opérateur, qui est Luis Armando Ortega, et qui est un chef opérateur vraiment très impressionnant, qui a su créer des lumières, en tout cas, et des ambiances dans ses intérieurs un peu feutrés, magnifiques dans votre film. Quel travail vous avez mené avec lui? Quelles indications vous lui avez données? Ou est-ce que c'est peut-être lui qui vous a accompagné dans...
C'est un travail qui se fait à deux. C'est vraiment un travail qui se fait à deux. C'est la première fois que je travaille avec lui. J'ai changé de chef opérateur pour ce film. Je voulais renouveler mon regard. Et je suis tombé sur un type qui a une puissance du regard, comme j'ai rarement vu, et qui fait un travail sur la couleur que j'adore. Il essaye de rendre les peaux réelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a parfois des rides, qu'on sent la texture de la peau. Aujourd'hui au cinéma, à cause du numérique d'ailleurs, qui est beaucoup moins beau que la pellicule, on a des peaux plastiques, comme sur les magazines, comme Photoshop. Et en fait, lui, il essaie de faire que les peaux aient des couleurs réelles, mais aussi du coup que le monde ait des couleurs. Et je pense que c'est clé, parce que c'est un film sur la vie, et dans la vie, il y a de la couleur.
Dans la vie, il y a de la couleur et on le verra dès demain. Franco Loli, votre film incroyable qui sort au cinéma. Il en sera question d'ailleurs dans La Dispute, l'émission de France Culture, ce vendredi 21 février. Il faut aussi que j'annonce autre chose qui n'a rien à voir avec votre film, mais qui est tout de même un enregistrement en direct. C'est Le Chat de Georges Siménon avec les comédiens de la Comédie Française, un spectacle radiophonique réalisé par Baptiste Guiton qui sera enregistré en public le 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Tout le programme détaillé et les réservations sur notre site maisondelaradio.fr ou au 01 56 40 15 16. On se retrouve dans quelques instants. Notre invité de seconde partie sera François Héran.